Bon, d'abord, merci pour m'avoir invité. Effectivement, ça faisait longtemps que j'avais envie de venir là. Et donc, j'ai profité à la première opportunité de venir. Je vais m'excuser d'abord aussi, parce que, comme vous le noterez très rapidement, si vous l'avez déjà fait, mon français n'est pas parfait. Et donc, il y aura ici et là quelques coquilles, quelques hésitations. Donc, désolée pour ça. Quand j'ai établi les titres de cette conférence, que c'est à propos des livres, des documents, des textes, des futurs numériques, de tout cela, effectivement, je me suis demandé comment affronter ça. Parce qu'effectivement, c'est très compliqué de parler de ces sujets. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre aujourd'hui une transformation historique très importante, un changement vraiment profond de notre culture. On est en train de transférer d'un moyen à un autre. Et ça a des conséquences très profondes sur la façon dont on a d'apprendre, de lire, de comprendre les choses qu'on fait. Donc, effectivement, on ne peut pas sous-estimer effectivement, l'importance qu'ils sont en train de faire. À partir des années 60, il y a toute une série de chercheurs qui s'occupent de l'histoire des moyens de transmission, des moyens des médias, on pourrait dire comme ça aussi. Le premier, c'est Marshall McLuhan, qui était canadien, qui a écrit un livre qui s'appelle « La galaxie Gutenberg ». Donc, il pensait effectivement à l'invention de l'imprimé. Et là, il a formulé une de ses phrases les plus importantes, « The medium is the message ». Les moyens, les médiums est le message. Là, j'ai mis une image d'un livre qu'il a tiré à partir de ça et pour lequel je voudrais vous montrer effectivement qu'est-ce qu'il y a écrit là. Ce n'est pas écrit « The medium is the message », c'est écrit « The medium is the message ». Ou « the mass age » ou « the message ». Donc, ça, il a aimé, c'était une coquille, effectivement, qui a été introduite par son éditeur à sa maison d'impression, et donc il a aimé, il a tellement aimé qu'il a décidé de le garder. Ça, c'est pour faire comprendre aussi, effectivement, que les supports matériels sur lesquels on met nos messages changent complètement la nature du message lui-même. Quand on parle du passage du livre en papier au livre numérique, des documents en papier numérique, en fait, on aurait pu discuter la chose à partir de plusieurs points de vue. On aurait pu la voir à partir du point de vue sociologique, c'est-à-dire ce qui change dans notre société par rapport à la communication. On aurait pu reparler là d'un point de vue technologique, c'est-à-dire quels sont les gadgets, les objets qu'on utilise pour lire. Et si vous ne savez pas, l'objet qu'on utilise pour lire le plus, c'est votre téléphone. C'est le téléphone, l'objet à partir duquel on lit, hein, en majorité. On pourrait faire une approche historique, comment on fait des passages graduellement du médium à l'autre, ou une approche pédagogique, c'est-à-dire, si on lit sur le numérique, sur votre écran, est-ce que c'est la même chose au point de vue de l'apprentissage par rapport à lire un papier? Est-ce que l'approche cognitive est un peu différente? Ou une approche commerciale, c'est-à-dire comment les grandes boîtes numériques sont en train de créer un objet livre numérique pour nous convaincre à acheter des tablettes, des liseuses, des trucs, et comment ils utilisent les produits numériques pour faire de l'argent. Mais aussi, on aurait pu affronter la chose à point de vue des humanités numériques, c'est-à-dire en utilisant des outils théoriques et méthodologiques capables de nous expliquer ce qu'on est en train de faire. Bon, vous avez entendu ma présentation. En fait, ce n'est pas une surprise que j'ai choisi la dernière. J'ai choisi de parler du changement historique qu'on est en train de vivre, des changements de livres à l'ordinateur, au virtuel, à partir de l'approche humanité numérique, c'est-à-dire d'une approche théorique et méthodologique particulière, qui est capable de contextualiser la structure, ce qu'on est en train de dire, qui va au-delà de la phénoménologie. Parce que tout le monde est capable de dire, bon, qu'on achète des livres, on ne les achète plus, j'aime bien les livres, moi j'aime bien la tablette. Ou on peut plutôt se demander effectivement quel est le point de vue de chercheurs là-dessus et quelle est l'infrastructure théorique qu'on peut appliquer pour comprendre ce qui est en train de passer. D'abord, la grande question, qu'est-ce que sont les humanités numériques? Bon, c'est effectivement la grande question parce que même si vous étudiez, la plupart d'entre vous fait des humanités numériques d'une façon ou l'autre, c'est la grande question. Parce que je le fais depuis 20 ans et à chaque fois que je m'introduis dans des cercles, des collègues, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais des humanités numériques. Quoi? Donc, c'est toujours la question pour ne pas parler au-dehors de l'université, même pire. Donc, la question est, qu'est-ce que c'est ça? Effectivement, il y a plusieurs définitions, plusieurs malentendus sur qu'est-ce qu'on fait quand on fait des humanités numériques. Je suis sûre que vous avez votre réponse, que vous avez votre définition ou vos doutes. Normalement, je vous demanderai à lever la main ceux qui pensent qu'il est l'humanité numérique, c'est faire des sites web, etc. Mais vous êtes trop. Donc, on passe directement à ma réponse, à ma définition, parce que c'est plus facile comme ça. Donc, en fait, ce n'est pas une définition, mais je parle d'humanité numérique divisée en deux démarches, ou deux axes, si vous voulez. Donc, il y a une démarche plutôt de recherche. C'est, les humanités numériques, c'est de la recherche. Et ça a quoi faire avec la numérisation du patrimoine culturel, les textes, les objets, la musique, les bâtiments. Quels sont les enjeux théoriques liés à ça et quels sont les problèmes qu'est-ce que ça change aussi? Après, c'est aussi l'utilisation de ces objets une fois qu'ils sont numérisés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire utiliser un objet numérisé virtuel par rapport à utiliser l'objet réel? Voir un tableau ou voir quelque chose sur son écran. Est-ce que ça change quelque chose? Mais enfin, la chose plus intéressante, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau qu'on ne pouvait pas faire avant? Parce que là, c'est le moment où ça devient vraiment de la recherche et pas simplement de la critique. Mais il y a aussi une démarche pratique, c'est-à-dire c'est comment qu'on fait à faire tout ça. Ce n'est pas simplement qu'on parle « Oh, j'aime bien, moi, la numérisation. » Il faut la faire, effectivement. Quelle est la technologie? Est-ce qu'il y a une différence entre différentes technologies qu'on utilise l'un ou l'autre? Est-ce que ça change quelque chose? Et est-ce qu'on peut, nous, contribuer à l'invention d'une nouvelle technologie qui nous ressemble? Je vais revenir là-dessus. Quelle est la relation entre le numérique et les sciences humaines? La plupart des personnes qui pensent à l'humanité numérique pensent qu'en fait, c'est de l'informatique pour les sciences humaines ou l'informatique pour les nuls. Donc, on fait des humanités numériques parce qu'on n'est pas bien à faire l'informatique vraie et propre. Mais en fait, la relation entre les SHS, donc les sciences humaines et sociales, et l'informatique est très complexe à expliquer et ça arrive à différentes directions. Donc, au lieu d'expliquer ça, je pense que c'est mieux, je vous présente un petit panorama historique, comment ont se développé les humanités numériques. Vous savez que nous, dans les humanités, on aime bien partir d'Adam et d'Ève partout, et donc vous me excuserez de ça. J'ai divisé l'histoire des humanités numériques en quatre phases. Elles ne sont pas quatre phases qui, quand arrive la seconde phase, la première est terminée, mais elles sont cumulatives. C'est comme des couches, des choses qu'on rajoute, on rajoute, on rajoute. Donc maintenant, on utilise encore les techniques qu'on développait dans la première phase. Je les appelais « Computing the Humanities », la première, « Humanities Computing », la seconde, « Digital Humanities », la troisième, et Digital X, la quatrième. En fait, la première phase, Computing the Humanities, démarre très tôt dans l'histoire de l'informatique, dans les années 50-70. Et l'histoire des humanités numériques est liée à la vie, à la figure de Père Busa, c'est monsieur ici, Padre Roberto Busa, un italien, un jésuite, qui travaillait à l'Université catholique de Milan. Ce monsieur avait un problème. Le problème, c'était qu'il voulait faire les concordances, c'est-à-dire l'analyse mot par mot, des ouvrages d'un auteur médio-latin, Saint Thomas d'Aquin. Et effectivement, c'est beaucoup de travail, donc, parce que les ouvrages de Saint Thomas d'Aquin, dans un étagère d'une bibliothèque, ça commence là, ça termine là-bas. Donc il a dit, si je cherche mot par mot son contexte chaque fois, je m'en sors plus, quoi. Il avait calculé qu'il aurait fallu travailler au moins 120 ans. Et il a dit, bon, moi, je n'ai pas 120 ans à disposition, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On était dans les 49, c'était le moment où les ordinateurs qui étaient développés pendant la Seconde Guerre mondiale pour des objectifs militaires devenaient civils. Donc il y a une grande boîte qui est créée à ce moment-là aux États-Unis, et c'est IBM qui existe toujours. Donc il y a une soirée, un cocktail à New York, vous pouvez l'imaginer. Il y a Monsieur IBM, les patrons, et Père Bouze qui se rencontrent autour d'un verre. Et effectivement, Père Bouze lui demande, écoute, moi j'ai un problème, toi tu as une machine, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Effectivement, ça, c'est une petite histoire, mais qui nous présente la première phase des humanités numériques. Ce sont des humanistes, normalement, qui frappent métaphoriquement la porte aux collègues qui travaillent dans l'informatique, la naissante informatique, et lui demandent, est-ce que tu peux m'aider? Moi j'ai un problème, toi tu as une machine, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je vais vous montrer aussi la prochaine photo que j'aime bien. Ça, ce sont les collaboratrices des Père Bouze hein, qui sont en train de travailler à la création de cette concordance, l'index Thomisticus, qu'ils ont appelé comme ça. Vous voyez, ils sont en train d'utiliser une machine pour faire des fiches perforées. Donc, ils ont les textes, ils sont en train de préparer. Ce que j'aime beaucoup de cette photo, que comme vous voyez, ce sont des femmes. Et en fait, il y a un mythe qui est important aussi d'affronter là, c'est que la plupart des personnes qui travaillent dans l'informatique dans les années des pionniers, en fait, c'était des femmes. Vous me permettrez une petite, hein, une petite moment là, je vous présente les femmes qui sont à l'origine de l'informatique. On a Ada Lovelace. À gauche, c'est la première, elle est l'autrice du premier programme informatique avant que les ordinateurs étaient même créés. Là, on voit les femmes qui travaillent à l'ENIAC, les premiers ordinateurs utilisés de façon vraiment industrielle. Et là on a Catherine Johnson et Dorothy Vaughan, qui sont deux des personnages les plus importants, qui sont les femmes qui ont fait les calculs pour envoyer les hommes sur la Lune, qui travaillaient au NASA. Ils ont fait un film magnifique, si vous avez vu, The Hidden Figures, qui parle de ces deux femmes. Donc vous voyez, effectivement, maintenant aujourd'hui, on pense à l'informatique comme il n'y a que des garçons, si on va à la fac là. Mais, au moins à Grenoble, c'est comme ça, je ne sais pas ici. Mais effectivement, il y a ces mythes que les filles ne sont pas bonnes à la maths, pour quelque raison. Ce n'est pas vrai du tout. Je reviens là. C'est le moment où je disais, on commence à compter les mots. Le développement des humanités numériques est lié aussi à la guerre froide, la première guerre, la guerre mondiale qui a créé c'est la seconde guerre mondiale, mais la première dans notre histoire, évidemment, qui a créé l'ordinateur, et la guerre froide. Pourquoi? Parce que dans les années 50, on commençait, les Américains étaient capables de détecter les messages codés des Russes. Hein? Mais ils n'avaient pas suffisamment de personnes aux États-Unis qui parlaient les Russes. Et tout ce qu'il avait, effectivement, il était en prison parce qu'il pensait que c'était des espions, c'était le macartisme. Donc il n'y avait pas suffisamment de personnes pour déchiffrer les messages des Russes. Et donc ils se sont dit, bon, écoute, les langues, ce n'est pas difficile du coup. Hein? On peut faire une traduction automatique, un mot, facile. Si vous n'avez jamais essayé de faire une traduction avec Google Translate ou quelque chose comme ça, vous avez vu qu'effectivement, ce n'est pas si facile que ça. Mais du coup, c'est pour cette raison qu'un grand investissement a été fait sur le traitement du texte pour l'ordinateur. Et c'est là que ça commence à être élaboré les premiers algorithmes pour le traitement du texte, la naissance de l'informatique linguistique et du TAL, du traitement automatique de la langue. Je passe rapidement là-dessus pour arriver à la seconde phase. La seconde phase, c'est la phase des années 80-90. Là, les mots-clés que j'ai choisis pour la caractériser, c'est baliser et modéliser. Pourquoi ça? Parce que c'est le moment où les grands standards qu'on utilise toujours aujourd'hui pour le traitement des textes, c'est-à-dire la TOI est née en 86 et le web, l'HTML, est née en 1993. Et pour cette raison, j'ai choisi ça. C'est le moment où les humanistes, qui, dans la phase précédente, tendaient plutôt à frapper la porte aux collègues, ils se sont dit, bon, écoute, cette informatique, ce n'est pas si difficile que ça. Je peux l'apprendre moi-même. Donc, ce sont les humanistes qui se mettent à programmer, qui s'y mettent au boulot. Et c'est le moment où on s'est dit, bon, on peut penser à représenter les textes, pas seulement les traiter. C'est comment on prend les textes, on les présente au public. On va les montrer aux autres. C'est le moment où on commence à élaborer ce qu'on appelle des bases de données historiques et des systèmes d'information géographique. Donc là, maintenant, on a Google Maps qu'on les met dans tous les sites, même quand ce n'est pas nécessaire. Mais à ce moment-là, Google Maps n'existait pas encore. Et en fait, je vous montre une petite vidéo, j'espère que ça marcherait. Ça, ça vient de The Valley of Shadow. C'est un des premiers projets historiques, de base de données historiques, avec représentation géographique. Et comme vous voyez, il y a une petite vidéo qui montre le développement de la guerre de sécession américaine. Et là, la flèche, c'est le mouvement des troupes. Et les petites étoiles, c'est où sont les batailles. Bon, c'est quelque chose qui, ça ne nous semble pas exceptionnel aujourd'hui. Mais là, on était en 93. Donc, c'était avant, effectivement, Google Maps, avant toutes les représentations, la néo-géographie qu'on m'appelle aujourd'hui. Donc, c'était effectivement les projets qui sont à la base de tous ces développements. C'est le moment où on commence à faire aussi les premières éditions numériques. Il était distribué plutôt en CD, en CD-ROM, en DVD. Et c'est le moment où on commence à créer les premières bibliothèques numériques. La première, c'est beaucoup avant, c'est en 71, c'est le Gutenberg Project, mais c'était pensé complètement différent. Mais c'est le moment où Gallica démarre. On est encore une fois au début du web, 92. Comme vous voyez, j'aime bien les vieilles photos. Je vous montre des vieilles photos pour voir si vous connaissez quelqu'un des personnages qui ont caractérisé ces mouvements, moments-là. Cette personne-là, c'est, je ne pense pas que vous la connaissez, mais c'est, sans lui, on n'aurait pas eu les humanités numériques et surtout, on n'aurait pas eu la linguistique computationnelle comme on la connaît aujourd'hui. Et ça, c'est Antonio Zampolli, un autre Italien, qui était pendant des années directeur du Centre de recherche de linguistique computationnelle de Pise. Et c'était un consultant pour la communauté européenne et aussi pour le NIH, c'est le National Endowment for the Humanities aux États-Unis. Il était capable de les convaincre à investir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour créer les humanités numériques et en particulier pour créer la théorie. On voit là, par exemple, une autre belle photo. C'est la photo de la première rencontre d'un groupe qui a créé la théorie. Et vous voyez Zampolli en première file, là. C'est à Poughkeepsie. Donc, c'est pas loin de New York, en fait, c'est pris. Et il y a aussi deux figures intéressantes qu'on va voir dans un instant. Ici, hein, Lou Barnard. Et là derrière, Michael Sperber McQueen. Je vous les montre comme ça. Ça, c'est une autre photo très sympa. Lou Barnard, là, et Michael Sperber McQueen. Ils sont les deux pères de la théorie. En fait, la théorie est une famille arc-en-ciel. Il a deux pères et pas une mère et un père. Hein. Michael Sperber McQueen, après avoir donné la vie à la théorie ensemble à Lou Barnard, il est parti à travailler au sein de W3C, du consortium web qui s'occupe des standards dans le web. Effectivement, il a aussi un autre père, les pères de XML. Aujourd'hui, on travaille en XML, on l'utilise partout. Et l'XML, on le considère, c'est l'une des contributions les plus importantes des humanités numériques au monde. Vous connaissez ce monsieur? C'est quelqu'un qu'il connaît? Non? Oui? Si? C'est l'un des grands héros de notre temps, hein, effectivement. Le nom, Tim Berners-Lee, est-ce que vous dites quelque chose? Ouais. C'est l'inventeur du web. On le reconnaît parce que là, dans l'écran, on voit CERN, parce qu'il travaille toujours hein, aujourd'hui au CERN de Genève, centre de recherche. Et là, les W, là, c'est la première site web jamais créée, qui existe encore. Donc, c'est quelqu'un qui a créé le web, créé l'HTML, et les grands héros de notre temps, parce qu'il n'a pas mis un brevet là-dessus. Il l'a laissé libre. Si aujourd'hui, le web, c'est qui c'est, et vous avez votre téléphone, vous faites n'importe quoi avec, c'est aussi grâce à ce monsieur, qui n'est pas simplement l'a inventé, mais il n'a pas mis un brevet là-dessus. Et donc, il l'a fait libre. Je passe rapidement à la troisième phase. Là, on parle des années 2000 et 2010. Big data, web sémantique, ce sont les mots-clés que j'ai choisis. Et je l'appelle Digital Humanities. Pourquoi? Parce que c'est en 2005 que l'étiquette Digital Humanities a été effectivement inventée par John Unsworth. Donc avant, on ne l'appelait pas comme ça, on appelait justement Humanities Computing ou Computing the Humanities. C'est le moment où il y a un grand développement des techniques, des logiciels, d'initiatives. C'est aussi quand on commence à travailler ensemble. C'est-à-dire, première phase, l'humaniste frappe la porte à l'informaticien. Seconde phase, l'humaniste, j'ai fait tout moi. La troisième phase, on se rend compte que l'informatique est un peu plus compliquée que ça. Effectivement, on dit, bon, c'est mieux qu'on collabore plutôt. Et donc, au lieu de frapper la porte, on crée des teams, on crée des groupes de travail ensemble, on crée des centres de recherche où on trouve des informaticiens, des ingénieurs qui peuvent nous aider, qu'on travaille avec. C'est le moment aussi de la gestion du born digital. C'est-à-dire que là, à partir des années 2000, on se rend compte qu'on a créé déjà des masses de données et il faut les préserver. Il ne faut pas l'oublier dans 2-3 ans, que ça devient l'obsolescence est trop rapide. Il faut trouver des façons pour les garder comme ils sont, pour continuer à les travailler. C'est justement qu'on commence à se poser la question de la pérennisation de façon plutôt sérieuse. Et c'est aussi le moment de formalisation institutionnelle et politique des humanités numériques. C'est-à-dire, c'est le moment où on a la création de ADO. C'est en 2005. Alliance of Digital Humanities Organization, qui au début a groupé que deux associations, l'association EADH, à ce moment-là s'appelle LLC, European Association for Digital Humanities, comme dit le nom, c'est l'Association européenne des humanités numériques, et ACH, qui est l'Association américaine des humanités numériques. Mais après ça, d'autres associations sont arrivées. On commence par CenterNet, l'association des centres de recherche des humanités numériques, l'association canadienne des humanités numériques, la première association bilingue qui pose le problème, est-ce qu'il faut parler en anglais tout le temps? L'association Australasian Association of Digital Humanities, donc c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Asie-Pacifique. L'association japonaise du Japon des humanités numériques, l'association Humanistica, qui est l'association francophone des humanités numériques, et récemment l'association de pays sud-africains et l'association de Taïwan, l'association taïwanaise des humanités numériques. L'année prochaine, on va sûrement avoir au moins l'association sud-américaine des humanités numériques qui va rejoindre. Donc, comme vous voyez, graduellement, les ADO, ça devient un phénomène global. Les humanités numériques, seulement regardant la liste des associations, comment elles se rapprochent, on comprend effectivement qu'il y a un grand mouvement, une grande intention. Je reviens rapidement et désolé à ça. Donc, c'est aussi le moment où on commence à penser à la conséquence de la numérisation à la représentation, à la théorisation. C'est-à-dire, c'est le moment où on commence à penser qu'est-ce qu'on est en train de faire. Les humanités numériques cessent d'être quelque chose qu'on fait, mais ça devient aussi quelque chose qu'on pense, quelque chose qu'on théorise. On écrit des livres là-dessus. Les premiers livres sur les humanités numériques, c'est en 2005. C'est le moment où on s'occupe aussi de qu'est-ce qu'est la recherche numérique et pas simplement comment numérise notre recherche, si vous voyez la différence. Là, je vous montre aussi d'autres photos, et ça, ce n'est pas une personne, c'est quand même une représentation. C'est prendre un livre très important, qui s'appelle Maps, Graphs and Trees. C'est écrit par Franco Moretti. Franco Moretti, c'est un chercheur italien aussi. Ce ne sont pas choisis parce qu'ils sont italiens, je vous promets, hein. Qui travaillait à ce moment-là, quand il a écrit ses livres, à l'université Stanford aux États-Unis. Maintenant, il est le PFL à Lausanne. Et il a inventé ce qu'on appelle « distant reading », la lecture à la distance. Bref, qu'est-ce qu'il se demande? Là, on a numérisé des millions de livres. Qu'est-ce qu'on fait avec un million de livres numérisés? On ne peut pas les lire. Même si on lisait un livre par jour, on arriverait même à la moitié de ça. Et donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, sans lire les livres? Donc, c'est quelqu'un qui a développé toute une série d'analyses statistiques de la littérature. Il y a un chercheur qui s'occupe de la littérature victorienne anglaise, du roman anglais. Et il s'est dit, est-ce que si j'utilise tout le matériel, les corpus complets, je peux trouver quelque chose d'autre que je n'avais pas la possibilité de voir avant? Et donc là, effectivement, il a ouvert toute une série de recherches qui sont vraiment très, très à la page maintenant, très à la mode, et sur lesquelles je vous montre un autre petit épisode. Moi, j'aime bien les petits épisodes parce que ça donne un peu plus d'idées que les humanités numériques, ce n'est pas quelque chose de séparé par les personnes, ce sont faits par des personnes, des chercheurs. C'est ça que j'appelle « The Joker Swofford Affair ». Qui c'est Matthew Jokers? Ce monsieur-là, professeur d'humanité numérique au Nebraska, était ancien collaborateur de Franco Moretti, donc l'un des développeurs de Distant Reading. Et il y a quelques années, il a publié sur Twitter un lien à son blog perso où il dit « Écoutez, j'ai trouvé un algorithme magnifique capable de détecter les sentiments, sentiment analysis. Donc, sans lire les livres, je peux vous dire quels sont les sentiments dont on parle, s'ils sont heureux, s'ils sont tristes ou quoi que ce soit. » Annie Swofford, à ce moment-là, était une étudiante en première année de doctorat qui, en anglais, qui voit, a vu ces liens, elle va dans les blogs, elle télécharge le matériel, elle essaye chez elle, et lui répond les jours après, écoute, ça ne marche pas. Et lui dit, ah ben, écoute, évidemment ça marche, c'est toi qui fais l'erreur. Donc on a effectivement l'attitude du grand professeur, homme blanche, qui lui dit à la petite fille, écoute, ça ne marche pas, c'est toi qui as fait des erreurs. Donc elle essaye, non, effectivement ça ne marche pas, j'ai fait ça. Évidemment c'est moi que je me trompe, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu mieux? Bref, 15 jours, 120 tweets qui partent d'une part à l'autre, 7 interventions dans les blogs par Annie Swofford, 5 interventions dans un blog fait par Matthew Jokers. À la fin des 2 semaines, Matthew Jokers dit « Ah, je suis trompée. T'as raison, effectivement, j'ai fait une erreur. » Pourquoi j'aime bien cette petite histoire? C'est une petite anecdote, mais elle nous montre 2 choses importantes. La première, comment ça marche la recherche numérique. Dans un cas plus traditionnel, comment on aurait pour savoir qu'il s'était trompé. On aurait dû attendre qu'il allait à une conférence, qu'il présente, qu'il publie les actes du colloque, qu'il y a quelqu'un qui essaye, qui va à notre conférence, présente que ce n'est pas bon, des années, quoi. Et là, dans 2 semaines, on a déjà vu, bon, ça ne marche pas, il faut continuer le travail. Donc la rapidité, ça a changé tellement que c'est vraiment irréconnaissable la façon de travailler maintenant. La communication scientifique a changé énormément. Et la seconde chose que ça démontre, que dans les humanités numériques, il n'y a pas de hiérarchie. Pas comme dans les autres disciplines. C'est beaucoup plus ouvert, ça bouge beaucoup, c'est beaucoup plus dynamique. Et ça, j'aime beaucoup. On arrive rapidement à la 4e phase parce que je sais que je vous ai promis de parler des livres. Et c'est les mots-clés là, c'est impact sociétal. Ce sont les nos jours. Et j'appelle ça Digital X, parce qu'au lieu de X, vous pouvez mettre n'importe quoi. Digital anglais, digital italien, digital philosophie, digital histoire, digital codicologie, digital religion, théologie, etc., etc. Vous le trouvez partout. Donc en fait, digital c'est partout, et donc digital human c'est plus rien. Ça devient n'importe quoi. Ça devient... Bon, là, j'ai dit, bon, c'est cette idée que faire des humanités numériques, c'est comme être amoureux. C'est-à-dire, personne ne te peut dire, toi, si tu es amoureux ou pas, c'est toi, tu sais, dans ton petit cœur, quoi. Donc, ça devient une attitude personnelle, c'est un sentiment, c'est pas effectivement une démarche de recherche non plus. Mais c'est le moment ici où on ouvre les humanités numériques à la question de la diversité, au multilangage, vous avez vu la progression des associations qui entrent dans ADO, qui vous montre effectivement une grande différence du point de vue culturel. Il n'y a pas que les États-Unis et l'Europe. Ça devient un phénomène global, multilinguistique, multiculturel, multialphabétique aussi. C'est aussi le moment où on se pose la question quel est le rôle du chercheur dans la société numérique. Est-ce que nous avons un rôle pour changer les choses. Et ça ouvre les problèmes éthiques, l'éthique des humanités numériques, l'éthique du numérique. Des photos, comme d'hab, mais cette fois-là, ils ne sont pas des vieilles, c'est quelqu'un de plus jeune. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Ah ben oui, Edward Snowden. J'espère que vous le connaissez, c'est partout, tous les journaux. Et pourquoi j'ai mis la photo d'Edward Snowden? Parce qu'effectivement, c'est lui qui nous a fait, plus que d'autres, fait apercevoir que le numérique, ce n'est pas simplement une opportunité pour nous, mais c'est une opportunité aussi pour les pouvoirs, pour nous contrôler, pour utiliser notre personne numérique, notre avatar numérique, pour faire des choses que peut-être ce n'est pas ce qu'on avait voulu. Donc, il nous a rappelé du danger du numérique et qu'il faut faire attention. Il nous a interpellés sur la question éthique. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non? Si? C'est quelqu'un qui connaît? Pouvez-vous lever la main? Ouais? Aaron Swartz, c'est ça. C'est Aaron Swartz. C'est qui Aaron Swartz? Bon, quand j'étais jeune, avec plus ou moins vos âges, moi et mes copains à l'université, on avait tout un poster dans notre chambre. C'était Che Guevara. Aujourd'hui, il faudrait avoir le poster d'Aaron Swartz. Pourquoi je dis ça? Qui est Aaron Swartz? C'était un enfant prodige. À 13 ans, il participait à l'élaboration des standards du web, les RSS d'information, effectivement, ça a été écrit par lui. C'était marrant de voir, hein, il y a des échanges avec lui et les autres collaborateurs qui lui demandent, oh, on fait une réunion à Portland dans un mois, qui vient? Moi, je ne peux pas, maman ne me laisse pas partir, moi. Et quoi? Quel âge as-tu? Bon, j'ai 13 ans, quoi. Donc, il ne savait pas qu'il travaillait avec quelqu'un qui avait 13 ans. Donc, un enfant prodige qui a beaucoup travaillé pour la liberté du web. C'est effectivement lui qui a organisé la protestation contre le projet des lois pendant l'administration de Obama aux États-Unis pour limiter la liberté du web, pour faire le web à différentes vitesses. La même loi qui est passée maintenant pendant l'administration Trump, dans les cas. Mais c'était lui qui avait organisé ça. Il travaillait avec Lawrence Lessig à la création des licences Creative Commons. Et il était contraire à la limitation de l'accès au savoir sur la recherche scientifique. En particulier, qu'est-ce qui s'est passé? Que quand la grande boîte JSTOR a mis en ligne toute une série de millions d'articles scientifiques derrière une barrière payante, il était contre ça parce que la recherche scientifique devrait être libre, il pensait. Donc, il est allé au MIT de Boston et il a commencé à télécharger dans des disques durs les articles qui étaient dans JSTOR. JSTOR s'aperçut de téléchargement, appelle l'FBI. L'FBI arrive et il met garde à vue Aaron Swartz, qui est mis donc sous procès. Et il était menacé d'une condamnation de 30 ans de prison. Avec les fédéraux qui disaient qu'il faut faire un exemplaire de lui parce qu'on ne peut pas télécharger comme ça. Il voulait télécharger. Il n'a pas diffusé. Hein. Il n'a que téléchargé. Il n'a rien fait avec. 30 ans de prison. Vous savez combien d'années on donne à quelqu'un pour avoir tué quelqu'un? 20 ans au max. C'est une femme beaucoup moins. Et au cas particulier, il n'a pas résisté à la pression de ça et il a commis suicide. Il avait 27 ans. Donc, quand je dis, c'est l'un de ce qu'on appelle un martyr de la liberté du web, un martyr de la liberté de la recherche scientifique, de l'open access. Là, ce n'est pas une photo d'une personne, mais c'est un épisode. Je voulais parler. Est-ce que vous connaissez Elena Ferrante? L'amie prodigieuse, quelqu'un l'a lu? Oui, c'est exceptionnel. C'est une écrivain italienne, traduite dans plusieurs langues, vainqueur de n'importe combien de prix, mais il a une caractéristique particulière. On ne sait pas qui c'est. Donc, on sait sûrement qu'Elena Ferrante, c'est un nom de plume, mais personne ne sait qui est. Et là, c'est quelque chose que, pour quelques raisons, on ne peut pas tolérer. Et donc, il y a eu un gros groupe de chercheurs qui sont mis à faire des analyses stylométriques pour trouver qui c'est Elena Ferrante. C'est le même groupe qui s'était mis avant à J.K. Rowling, parce qu'après avoir publié le cycle de Harry Potter, elle a publié des romans, elle continue à le faire même après être démasquée, hein, comme si c'était effectivement un crime d'écrire sans vouloir faire savoir aux autres sa propre identité. Et elle a écrit sous le pseudonyme, nom de plume, de Robert Galbraith. Donc là, effectivement, on se demande, oui, ils étaient capables, elle a admis que c'était elle, effectivement, J.K. Rowling, autrement la personne qui était indiquée comme auteur, en fait c'est un nom, qui était comme l'auteur d'Elena Ferrante, a jamais admis d'être lui. Donc il a laissé comme ça, il dit, bon, vous créez ce que vous voulez, moi je ne suis pas aimée. Elle a nié d'être lui. La question est, le fait que nous pouvons faire quelque chose, est-ce qu'elle nous donne le droit de le faire? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On peut trouver qui est Elena Ferrante. Et alors, est-ce que c'est un crime de rester anonyme? Est-ce qu'on n'a pas le droit de garder notre vie privée privée? Est-ce que dans le monde numérique, on doit exposer tout? Donc là, j'ai mis une citation par J.K. Rowling qui parlait de combien elle pensait que c'était rafraîchissant d'être pas connue comme l'autrice de ces romans, parce que c'était plus créatif. La même chose qui a dit Elena Ferrante dans un entretien, elle dit « Bon, moi j'aime bien d'être anonyme parce que ça me donne la possibilité d'être créative. » L'histoire est terminée, et après l'histoire, on parle des méthodes. Peut-être que c'est moins intéressant, il y a moins de photos là. Au cœur des humanités numériques, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il n'y a pas seulement des personnes, mais il y a deux concepts de base, le concept de représentation et le concept de modélisation. Il y a des photos, je ne peux pas résister. Ceci n'est pas un manuscrit. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas un manuscrit, qu'est-ce que vous voyez? C'est une photo. C'est une photo d'un manuscrit. Ce n'est pas la même chose. Ça, évidemment, c'est une citation de Magritte qui mettait « Ceci n'est pas une pipe, évidemment. Ceci n'est pas un manuscrit et ceci, donc, n'est pas le Colisée. C'est une reproduction, c'est une reconstruction, c'est un objet artificiel qu'on a fait. » Ça, on parle de représentation de les humanités numériques, c'est-à-dire que tout ce qu'on met dans notre ordinateur, tout qu'on présente, ce n'est pas la réalité, c'est une représentation. Qu'est-ce que c'est une représentation? Une représentation, c'est une mise en scène. Et en fait, on parle de scénarisation du texte, scénarisation des objets. C'est-à-dire que comment, pour, je ne sais pas, pour Hamlet, il y a centaines de mises en scène, les directeurs changent, les acteurs changent, parfois on le modernise, parfois on le fait dansant, parfois on le fait chantant. C'est toujours Hamlet, mais c'est chaque fois différent. Donc quand on met, quand on représente nos textes, ce n'est pas le texte, c'est sa représentation. Une représentation, c'est toujours un choix de la part du représentateur, de ce qui met en scène ça. Là, vous voyez la petite vignette, il y a un peintre qui est en train de faire un portrait, ce qu'il voit et ce qu'il représente, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est toujours un choix interprétatif. Ce qui fait la représentation choisit des parties de ce qu'il veut représenter et fait une représentation personnelle. Parce qu'il met son point de vue. Et quand on dit ça, effectivement, on dit que la représentation, ça devient un modèle. Un modèle qui est toujours simplifié par rapport à la réalité. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un modèle d'une montagne. C'est beaucoup plus simple de la montagne véritable. Parce qu'effectivement, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas des grimpeurs, il n'y a pas des skis, il n'y a pas... C'est donc des couleurs qui représentent la température, par exemple. Donc la représentation, ce n'est pas forcément identique à la réalité. Parfois, les représentations sont diverses. Ils sont plus petits, sûrement, et aussi, ils altèrent la réalité pour mieux étudier des détails. C'est ça qu'on fait en humanité numérique. Qu'est-ce que c'est la modélisation? La modélisation, c'est effectivement l'idée de prendre un objet, vous voyez là la Ferrari, et les faire plus petits. On garde les caractéristiques, la forme, la couleur, mais il n'y a pas de moteur, il n'y a pas la possibilité d'entrer, c'est beaucoup plus petit. On ne peut pas faire la même chose, mais on peut faire d'autres. Par exemple, avec les petits, on peut les mettre sur une étagère. C'est difficile d'avoir des étagères avec des vrais Ferrari. Donc, on ne peut pas faire la collection, ça coûte trop cher. Donc, évidemment, là, il y a des caractéristiques différentes. Il y a une relation parmi les deux, oui, il y a une relation. Une relation qu'on choisit des caractéristiques et on les garde dans notre modèle. Parce que ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc un modèle, c'est aussi une carte géographique, c'est un modèle de la réalité. Et il y a différentes cartes géographiques, il y a des cartes géographiques très détaillées comme ça, parce que si on voit trouver les restos qui est marqué sur TripAdvisor, il faut savoir exactement l'adresse précise. Dans une ville, on va chercher les petits endroits. Mais parfois, il y a des cartes beaucoup plus grandes, à une échelle complètement différente. C'est deux modèles différents qui répondent à deux questions différentes. Là, c'est où mon restaurant? Là, quelle est la température? Mais parce qu'ils ont un niveau de détails différent, ça ne veut pas dire qu'ils sont fausses ou qu'ils ne marchent pas. Ils marchent pour la raison pour laquelle ils ont été créés. Donc chacun pour son projet, chacun pour sa recherche. Et donc, qu'est-ce que c'est un modèle? J'arrive au livre, je promets, j'arrive au livre. C'est la simplification d'un objet afin de pouvoir étudier plus simplement. C'est aussi la sélection des caractéristiques importantes pour la compréhension selon un précis point de vue sur l'objet. Et c'est aussi la création d'un objet artificiel, vous pouvez l'appeler un avatar si vous voulez, pour répondre à des questions scientifiques. On arrive au livre. Quand on numérise au livre, la première chose à faire, c'est effectivement de regarder les livres et se demander, OK, qu'est-ce que c'est un livre? Qu'est-ce qu'un livre? Donc, on peut faire un modèle. Si on fait une numérisation, si on passe aux humanités numériques, la première question à se poser en face à une réalité, c'est qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'un livre, vraiment? Vous savez? Ben oui, normalement. C'est un objet fait de papier ou parchemin, s'il est ancien, de l'encre. Mais c'est aussi une série de concepts exprimés par des mots et des éléments graphiques. C'est aussi une série de mots qu'on peut classer comme nom, verbe, prénom, préposition, adjectif. C'est aussi un objet de collection. C'est aussi un objet religieux, un objet mystique. C'est aussi un document du passé. Mais c'est aussi une incarnation culturelle et sociétale. Les livres suivent normalement la forme de la société, répondent aux questions de la société qu'ils produisent. C'est aussi un produit qu'on échange pour produire de la richesse. Enfin, on fait des produits et on les vend sur les marchés. C'est aussi une technologie d'information qui marche en différentes directions. On peut lire normalement de la première page à la dernière, il y a des index, c'est une structuration de l'information. C'est aussi un propulseur pour la carrière académique. On produit des livres pour devenir professeur, etc. Donc un livre, ce n'est pas un objet simple, c'est un objet compliqué, mais c'est aussi des lieux. Parce que les livres, on l'associe à des lieux. Par exemple, à une librairie où on va pour avoir des avis, qu'est-ce que je peux lire, pour chercher qu'est-ce que c'est nouveau, pour se faire inspirer pour la lecture. C'est aussi des bibliothèques. Et certaines bibliothèques sont magnifiques, exceptionnelles, qui sont créées au cours des siècles pour abriter des livres particuliers. Et c'est donc ce qui est autour du livre qui est important aussi. Mais le livre, c'est aussi l'émotion de l'apprentissage, l'émotion de l'apprentissage à la lecture, à découvrir les histoires qui sont dans les livres. Donc le livre n'est pas simplement polysémantique, il est polysémique. Et c'est un objet tout à fait complexe. Donc il n'y a pas de surprise que les livres n'ont pas été numérisés facilement. Et en fait, les livres numériques n'ont pas substitué les livres en papier, pas du tout, effectivement. Par rapport, si vous pensez à la musique, on a presque perdu les contacts avec l'objet physique. Parce que là, maintenant, on écoute un Spotify, n'importe quoi, la musique, on n'a pas besoin. C'est presque complètement dématérialisé. On peut garder parce qu'il y a des collectionnistes, mais effectivement, pas plus que ça. Pour le film, la télévision, c'est plus ou moins la même chose. Si vous pensez Netflix, Amazon Prime, tous les systèmes où on va regarder en ligne, la plupart des personnes, moi par exemple, je n'aime plus la télévision, je regarde tout dans mon ordinateur, effectivement. Autrement, les passages à l'e-book n'est pas simplement pas complété, mais même pas démarré, je pense. Il ne marche pas, il n'est pas homogène, il y a des problèmes partout. Et là, la seconde question, donc, qu'est-ce que c'est un e-book, qu'est-ce que c'est un livre numérique? Parce que là, on ne sait pas quoi. C'est un, peut-être, selon certaines personnes, c'est le texte mis en forme pour une liseuse. Donc ça, c'est un e-book. Ou, si vous allez dans cet site, ils appellent e-book les PDF, la version PDF qui est paginée, donc page virtuelle du même livre. Parfois, on appelle un e-book la liseuse directement. Donc, c'est ça l'e-book. Parfois, ce sont tous les sortes de publications numériques. Si vous pensez au site de la TOI, par exemple, si vous connaissez, même la version HTML, donc web de Guidelines, s'appelle un e-book. Il l'appelle comme ça. Un site Internet. Il y a des sites Internet qu'on appelle e-book. Et bon, peut-être que c'est aucune de ces réponses. Effectivement, c'est un objet qui n'est pas défini. On ne peut pas lui mettre les doigts là-dessus. On ne peut pas dire ça, c'est un e-book, ça, c'est pas. Parce qu'effectivement, c'est un concept un peu trop flou. Et peut-être c'est ça l'une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas encore. La chose, c'est que la plupart des e-books ont cet aspect-là. Donc, c'est la métaphore du livre avec des pages virtuelles, fictives, qu'on essaie de rassembler au livre véritable. Et quand on fait comme ça, quelque chose comme ça, effectivement, du schéomorphisme, c'est un mot terrible, je vais arriver là-dessus dans un instant. Normalement, c'est pour cacher que la réalité est mieux. Donc, on en fait effectivement une métaphore de quelque chose, on l'imite, effectivement, ça veut dire que l'objet imité, c'est mieux. Donc, effectivement, ça ne marche pas comme ça. Mais ces modèles du livre virtuel, c'est le modèle qui a guidé la numérisation des livres anciens. Et au point que la plupart des bibliothèques, au début, maintenant ils ont arrêté, s'il te plaît, mais ils avaient fait la possibilité de tourner les pages, qu'ils tournaient doucement, doucement. Donc on voyait la page tourner, c'était, parfois on entendait même les bruits, il y en avait quelqu'un qui avait pour tourner la page, c'était incroyable. Mais les livres ont une forte approche et là, on a élaboré, par exemple, toute une série d'éditions numériques qui présentent les textes. C'est un site que j'ai fait, donc c'est un criticisme que j'ai fait à moi-même, avec la page originale d'un côté et l'autre page de l'autre côté, page par page, document par document. Mais parfois, les livres numériques, c'est aussi de facsimiler enrichi. Ça, c'est un autre petit projet auquel j'ai travaillé. On cliquait sur l'image et les textes ressortis comme pour magie, comme des boules éblouissées là, dans l'ordre où étaient les écrits. C'est quand même une image numérique, mais qui commence à évoluer, ça devient un peu plus dynamique, ça devient un peu plus numérique. Mais sur les livres numériques, on peut avoir des technologies très raffinées. Ça, je vous montre peut-être un petit détail d'une technologie qui s'appelle Reflectance Transformation Imaging, qui est RTI, qu'on utilise pour faire la numérisation des objets dans plusieurs points de vue des lumières. Là, vous voyez par exemple, ça c'est un morceau de ces manuscrits-là, comme vous voyez, comme l'encre. Et les mots qui étaient écrasés, en fait, ont brûlé la parchemin. Donc, on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Donc, on utilise des technologies très avancées. Est-ce que c'est toujours un livre? Ou on peut regarder des projets où, au lieu d'avoir un livre, on prend que des lettrines. On a découpé toutes les lettrines des différents livres, différentes pages des manuscrits, pour étudier la forme des lettres, pour découvrir si c'était écrit par la même personne, de le même endroit, etc. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que chacun de ces petits morceaux est toujours un livre? Il vient d'un livre, donc qu'est-ce que c'est? En fait, quand on parle de livres numériques, on parle de plusieurs choses à la fois. On parle des formes des livres, des formats des livres. On parle des objets et des objectifs qu'on utilise pour faire ces livres. Et on parle aussi des enjeux qui sont liés à différents livres. Et là, j'ai distingué trois typologies de livres numériques. Les livres numérisés, qui sont les livres anciens normalement qui existent dans le monde réel, qu'on a transformé en objet virtuel. Je parle aussi des livres numériques, ce sont les born digital, ce sont les livres qu'on produit directement au numérique, et les livres hybrides, qui ont différentes manifestations de différents médiums. Pour des raisons de temps, je ne vais pas parler de la dernière, qui est peut-être la plus complexe et peut-être aussi la plus intéressante, et je m'arrêterai aux premières deux. Et donc, je commence à parler de livres numérisés. Quels sont les livres numérisés? Ce sont des livres anciens qui sont numérisés. Aujourd'hui, il y a des programmes de numérisation énormes dans toutes les bibliothèques. La BNF a numérisé des dizaines de milliards de livres. Il y a le programme de numérisation en masse de tous les livres et manuscrits de la bibliothèque vaticane. Donc, effectivement, des programmes, des investissements, des millions là-dessus. Mais il y a aussi des livres relativement modernes qui sont numérisés, scannés, par exemple par Google Books, et qui sont après mis en ligne en format de page par page. Et normalement, là-dessus, il y a un OCR sale qui présente les textes un peu flou. On verra. En fait, ces dernières années, pour expliquer ces millions de livres qui sont, millions de pages, des manuscrits anciens, des livres anciens qui sont numérisés, il y a un nouveau intérêt pour les manuscrits. Quelque chose qui, avant, c'était pas comme ça. Effectivement, si il y a une certaine euphorie autour des livres numérisés, si c'est difficile de faire la conversion au livre numérique, là, les bibliothèques convertent leurs livres à une rapidité et incroyable. Et effectivement, pourquoi c'est ça? Parce que, effectivement, dans le passé, les livres manuscrits étaient réservés simplement à des chercheurs qui allaient les voir. Ce n'était pas quelque chose d'utilisation normale. C'était représentant dans des films, donc ils voyaient les personnes qui arrivaient dans les archives et trouvaient des livres anciens. Vous pensez à toute la représentation de livres manuscrits dans Harry Potter? J'ai parlé d'Harry Potter avant, la bibliothèque où il y a les livres mystérieux, d'où on trouve des potions magiques, des choses comme ça. Donc c'était quelque chose qui avait un charme particulier, mais qui était complètement séparé de l'expérience directe du grand public. Il y a quelques années, si vous étiez des chercheurs en sciences humaines, vous vouliez effectivement voir les sources, il y avait peu de choix. Vous aurez vu les sources dans la paracritique des livres. Parce que c'était très difficile de voyager dans toutes les bibliothèques pour voir les manuscrits. C'était restreint et il fallait voyager. Ça coûtait beaucoup, il n'y avait pas Ryanair. Oui, il y avait un moment dans l'histoire où Ryanair n'existait pas. Et pour aller voir les bibliothèques et les manuscrits, il fallait effectivement payer beaucoup d'argent. Et donc là, c'était la façon où le monde regardait les manuscrits, c'était plutôt comme ça, dans les notes en bas de page qui vous disaient, bon, c'était comme ça, effectivement. Si vous aviez la chance que votre université payait un peu d'argent, vous pourriez faire des microfilms. Ça, c'était un objet infernal, hein. Les lecteurs de microfilms, oh là là. C'était l'une des choses moins ergonomiques de l'histoire, je pense, parce qu'il y avait seulement une façon pour travailler, c'était celle-là. Décoté, accroché pour écrire comme ça. C'était une chose épouvantable. Et la qualité de la lecture était horrible. Vers une page. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant que quand on a commencé à mettre en ligne des choses numériques, des images numériques, on a dit... It's a kind of magic. C'est quelque chose de magique. On voyait, regardez, c'était la qualité qu'on travaillait, c'était la chose comme ça. Ça, c'était les premières images qui étaient prises des microfilms qui étaient mis en ligne. Ça, c'est des Prologue of the Wife of Bath, Canterbury Tales. Et maintenant, c'est la qualité qu'on a. C'est étonnant, la différence c'est énorme. Vous voyez l'enthousiasme, l'euphorie pour l'image numérique des sources. Bon, ça s'explique donc pour les chercheurs. Mais pourquoi des millions d'images? Pourquoi le monde veut voir des manuscrits? Bon, effectivement, parce que normalement les trucs vieux sont cool. Hein. Ce qui est vieux a un charme, et comme je disais, les livres anciens ont un charme encore majeur. Il a le charme de quelque chose de mystérieux, secret, un langage difficile, il faut le déchiffrer. Donc on s'imagine des choses magiques dedans, quoi. Et ils sont aussi fermés, donc on ne peut pas y aller. Et donc le fait qu'on ne peut pas y aller, ça effectivement augmente notre tension vers les choses qui sont prohibies, qui sont interdites. C'est comme quand on est enfant, on veut les adultes qui fument. On veut fumer parce que c'est interdit pour les enfants. Ils sont beaux aussi, très beaux. Très beau. Est-ce que vous avez vu cette photo? Ça a circulé dans Internet. Je pense que c'est le résumé parfait du web. Un manuscrit et un chat. Donc, les deux choses qui font circuler le web dans une quantité énorme, on les voit là. Effectivement, cette image, c'est une image qui a été trouvée dans un manuscrit, dans un archive, je pense en Slovénie, si je me rappelle bien. Et que les chercheurs ont pris ces photos et l'ont mis sur Internet disant « Les chats sont les chats, ils étaient les chats à ce moment-là aussi. » Bon, c'est devenu viral. Dans 3 jours, il y a eu 5 millions de shares. C'était partout, partout, partout. Et là, effectivement, ça montre les deux choses qui, au moment, poussent le web d'une façon incroyable. Les manuscrits et les chats. Parfait. Donc, « the perfect storm », on dit en anglais. Mais c'est la numérisation et une représentation. On a vu là, tout à l'heure, ces questions. C'est-à-dire qu'une représentation a un point de vue. Il n'y a pas une représentation qui soit neutre. Ce n'est pas une présentation de l'objet, c'est une représentation de l'objet. Et donc, par définition, cette représentation est partielle et limitée. Et donc, chaque numérisation est un modèle de l'objet qu'il représente, qu'il numérise. On se rappelle qu'est-ce que c'est un modèle. C'est la même diapositive d'avant. Pour dire, c'est une simplification, c'est une sélection des caractéristiques, c'est la création d'un objet artificiel. On se rappelle bien ces 3 concepts et on pense à la page. La page est un modèle. C'est un modèle conceptuel qui a été développé au cours de la numérisation. C'est une simplification qui limite effectivement l'accès à l'information du livre. Qu'est-ce qu'on a laissé de côté quand on présente des objets comme ça? Pour commencer, l'autre page, la deuxième page, ou l'épaisseur, ou la dimension, ce qui est derrière, le fait que la page est liée à une autre page, semi-page de l'autre côté. On oublie toute une série de choses. On oublie que quand on ouvre un livre, il ne s'est jamais à plat, parce qu'il y a une ombre au milieu, hein, sur la couture. Quel point de vue on a privilégié? C'est la numérisation ou la représentation à un point de vue. Quel est le point de vue là? Le point de vue de lecteur. C'est fait comme ça pour lire. Donc, si vous êtes un historien de l'art et il y a une autre décoration de l'autre côté, vous ne voyez pas. Parce que là, vous oubliez ce qu'il y a de l'autre côté. Si vous êtes un codicologue, vous ne pouvez pas. Si vous êtes un conservateur de bibliothèque, vous ne pouvez pas travailler avec ça. Quelles sont les questions de recherche auxquelles on peut répondre avec ça? C'est qu'est-ce que c'est écrit là? C'est la seule question qu'on peut répondre. Mais ce n'est pas la seule question, comme on a vu, qu'un livre peut répondre. Donc, ce que j'appelle l'invention de la page, c'est effectivement lié à la chaîne de numérisation. C'est-à-dire que pour numériser des pages qu'on peut lire, qu'on puisse lire, il faut les numériser une page à la fois. Après, on peut remettre ensemble les deux côtés des pages, l'un à côté de l'autre, mais du coup, ça prend beaucoup de travail à refaire ça. Donc, il y a pas mal de bibliothèques qui ne le font pas du tout. C'est un modèle technologique qui est devenu un modèle culturel. L'idée de la page est une métaphore si forte qu'elle est même capable, on dirait, de ne pas laisser développer un propre modèle de livre numérique ou un substitut du livre numérique. Là, je vous montre un petit exemple de ce que c'est. Là, on a parlé jusque-là des livres anciens. On regarde les livres plutôt modernes. C'est le 19e siècle. Pour vous, c'est peut-être pas si moderne, mais pour qui travaille dans les livres anciens du Moyen-Âge, le 19e siècle, c'est modern rubbish. Là, c'est la première édition d'un livre de Dickens, comme il apparaît sur Google Books. Maintenant, il a une apparence un peu différente. The Pickwick Club. The famous posthumous paper of the Pickwick Club. Là, vous voyez que là, vous pouvez effectivement télécharger votre texte à différentes façons. Il inclut la possibilité de télécharger les textes qui est derrière, voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'on appelle une ossérisation. Donc voilà, là on a le chapitre 40, non, que c'est ici, 44. Il y a des morceaux. Peut-être on peut se concentrer sur ces morceaux-là, où il y a des morceaux d'un cockney, donc c'est un dialecte de l'anglais. Et si on regarde ce qu'il y a derrière, ça c'est le texte qui est derrière. Donc il y a des mots qui ne sont pas corrects. Il y a des erreurs. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la machine, l'ossière, le logiciel qui fait ça, n'est pas capable de détecter toutes les choses, et particulièrement quand la langue est compliquée, il n'y arrive pas. Et surtout sur les livres anciens. Sur les livres encore plus anciens, le pourcentage de succès est pratiquement zéro. J'ai essayé sur un texte du XVIe siècle italien, le pourcentage de succès est zéro. Normalement, pour les livres modernes, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Là, je pense qu'on est autour de 92% de succès. Aujourd'hui, on dit normalement que le pourcentage de succès est autour de 99%. 99%, c'est-à-dire qu'il y a une erreur tous les 100 mots. C'est-à-dire que pour un roman qui n'est pas très long, comme celui-là qui est Pride and Prejudice de Jane Austen, on a 1222 erreurs. Et ça, c'est quand on parle des 99% de succès. Évidemment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas assez bon. Ou c'est assez bon? C'est ça la question. Là, je parle de la culture de l'assez bon. Effectivement, c'est mieux que rien, on dit. C'est en ligne. Effectivement, on peut l'utiliser. Si vous pensez à vos étudiants, je regarde les collègues là, mais je pense à vous. Quand vous cherchez un livre, vous le trouvez en ligne. S'il y a des erreurs, bon, au moins c'est libre, hein. Au moins, c'est pas cher. Au moins, je ne dois pas aller à la bibliothèque pour les chercher. Au moins, c'est facile. Je suis dans les trains, je suis dans les soirs, les week-ends. Ça, c'est plus pratique. Ça, c'est la culture de l'assez bon. Donc, qu'est-ce que c'est assez bon? C'est assez bon, c'est qu'on trouve un premier en Google. Quand on Google, la première entrée de Google, c'est assez bon. Assez bon, c'est Wikipédia. Peut-être que ce n'est pas parfait, il y a des erreurs, c'est biaisé, n'importe quoi, mais quand même c'est là, donc c'est au mieux que rien. Peut-être que c'est assez bon parce que c'est gratuit, il y a les e-books qui sont même en Amazon, on les va, ça coûte zéro. Bon, je prends celui-là, pas celui-là qui coûte, je ne sais pas, 3 euros. Je prends celui-là qui coûte zéro parce qu'effectivement c'est assez bon. Mais aussi, on peut dire que c'est les préprints idéal pour la recherche, hein. Des choses qui ne sont pas encore corrigées. C'est plus ou moins la même chose. Quelles sont les conséquences d'une culture qui accepte quelque chose qui est assez bon? Si on pense à la qualité du livre imprimé par rapport à ça, c'est étonnant qu'on accepte 1200 erreurs sur un roman. Étonnant. On n'aurait jamais, jamais accepté un livre imprimé comme ça. On aurait dit non, ça c'est pas bon. Je veux un livre correct, moi. Et pourquoi on accepte l'assez bon du numérique?